L'écho d'Afrique sur RCM.
Aïe, 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 aïe.
Aïe, 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 nous sommes encore de retour sur l'écho d'Afrique. RCN toujours. Hein. Aujourd'hui, nous accueillons justement, on a le privilège de voir un excellent écrivain, il faut le dire.
Une bonne plume.
Et ce qui va tout de suite introduire cette émission, c'est une de ses phrases pour décrire ce que c'est qu'un écrivain que je me fais le plaisir de vous lire. Écrire, c'est s'écrire.
Ah.
Être écrivain, c'est écrire sur son âme. Cela correspond au développement personnel, ce que nous essayons d'incarner dans cette radio, à l'acquisition de la connaissance et à la formation de l'identité. Écrire, c'est écrire un livre. Imaginez le monde possible. Écrire, c'est être pour les autres. Écrire l'histoire collective. Écrire, c'est écrire dans l'autre. Inscrire dans l'âme d'autrui un récit de vie. C'est contribuer au développement personnel de l'autre. Aujourd'hui, voilà. Nous accueillons Brice Lévy-Koumba, qui est l'auteur de ces plumes, de cette écriture que je viens de lire. Nous allons le laisser se présenter. Comment tu le sens, cette émission?
C'est notre premier écrivain.
Premier écrivain. Je pense que la barre est tellement haute. On aura l'occasion, justement, de le laisser se présenter et surtout de nous dire à quand sa prochaine sortie, parce que je sais qu'il y a un événement qu'il organise très bientôt. On va pouvoir justement donner une visibilité à tout ça. Avec ta permission, on lui donne la parole.
On lui donne la parole, on lui laisse se présenter.
C'est avec un honneur et un réel plaisir que j'accepte cette parole et je vous remercie de m'avoir invité à votre émission Écho d'Afrique.
Merci à vous.
Plaisir partagé.
Et c'est aussi un plaisir que d'inaugurer la présence de l'écrivain au sein de votre émission.
Tout à fait.
Voilà.
Il marque un point.
Non, moi, c'est Brice Lévy-Koumba-Lambé. Je suis écrivain. Je viens du Gabon. J'ai étudié à la fois au Gabon et ici à Nancy. En passant par, on va dire, Rouen.
D'accord.
Voilà, je considère désormais Nancy comme étant mon village. Ça fait quand même longtemps.
On fait un coucou à tous.
C'est devenu un ancrage anthropologique. C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas chez moi au Gabon, lorsqu'il s'agit de choisir ou de définir un village, Nancy est certainement la candidate à cette nouvelle identité, à cette appropriation culturelle nouvelle. Ouais. Parce qu'on est quand même là où nous sommes aussi chez nous.
Tout à fait.
Je suis à Nancy, Nancy est aussi mon village, mon grand village.
Bienvenue dans la cour, grand frère.
Merci beaucoup.
Bienvenue. Très, très fier et très, très honoré de t'accueillir aujourd'hui sur cette antenne. Tu ne sais pas quelle fierté nous anime parce que je pense que pour nous d'atteindre ce niveau, de pouvoir déjà attirer l'attention des écrivains, c'est pour nous un parcours depuis un an, on va dire.
On en cherche
aussi
depuis.
Tire vers l'excellence parce que c'est aussi les invités qui élèvent le niveau de l'émission. La qualité des paroles que nous allons, ou bien du message que nous voulons délivrer.
Ouais.
Et pour nous, c'est très important d'avoir quelqu'un qui non seulement écrit, mais qui finalement aussi partage nos valeurs.
C'est ça.
Dans son écriture, je viens de le dire dans les phrases que j'ai lues, l'engagement associatif rejoint clairement ce que tu viens de décrire comme un écrivain. L'engagement sur cette antenne à la radio RCN rejoint effectivement le fait qu'on veut donner quelque chose aux autres. Et donc pour nous, on se sent en fait tout simplement dans la définition d'un écrivain que tu décris et ça nous fait très très plaisir.
Et vous souhaitez que je commente la lecture que vous avez faite?
Bien sûr.
C'est en fait une définition de l'écrivain qui est arrivée comme conclusion de mon cheminement dans l'écriture.
Wow.
C'est-à-dire qu'on a observé, on a regardé. et puis je me suis posé. Comme toute personne, à un moment donné, se pose la question de l'identité, de son identité. Et je me suis posé la question de l'identité écrivaine. Qu'est-ce qu'un écrivain? Et là, j'ai compris qu'en réalité, en écrivant, j'étais aussi en quête de moi-même. Je me cherchais. Donc, je suis en fait en train d'écrire.
On s'écrit.
Je m'écrivais. Écrire, c'est s'écrire.
C'est
en fait, c'est créer sa propre existence, c'est advenir à l'existence.
C'est ça.
On se pose la question où nous sommes, que voulons-nous faire? Et l'écriture, finalement, à la question que je suis, l'écriture dévoile par le processus sculptural. On arrive effectivement à cette, on va dire, cette dimension aléthéique, c'est-à-dire ce dévoilement.
cette matérialisation finalement de son existence à travers l'écriture.
Ça a été des très grands mots.
Des très grands mots directement. Je ne vais pas chercher les grands mots.
Mais
les mots viennent surtout lorsque vous avez un écrivain. L'écrivain, c'est aussi celui qui élève les consciences, celui qui pousse, qui porte haut. C'est comme quelqu'un qui élève, qui amène vers le haut.
Exactement. D'où même le fait qu'on dise qu'écrire, c'est élever son esprit. Lire, c'est élever son esprit.
C'est élever son esprit. Raison pour laquelle, à un moment donné, effectivement, on peut être, on va dire, horizontal, utiliser des termes terre-à-terre, mais de temps en temps, il faut un peu faire de la vague, monter, descendre, amener de la hauteur, surtout dans une émission qui s'est vue sérieuse, lorsque, on a un écrivain. Donc l'écriture, c'est non seulement s'écrire, donc en réalité l'écrivain, il est à la quête de sa propre identité, c'est non seulement se chercher, et finalement, en écrivant, il se révèle, il découvre qui il est. Mais c'est découvrant qu'il est, en réalité, il comprend que non seulement son matériau d'écriture n'est pas forcément le papier, n'est pas forcément l'écran de l'ordinateur. Mm-hmm. En réalité, son matériau d'écriture, c'est toujours déjà l'âme. Ouais. Son âme, sa propre âme. Mais il découvre aussi l'autre, il va à la rencontre de l'autre.
Écrire, c'est contribuer aller, au développement personnel de l'autre.
On contribue à notre propre développement personnel, mais aussi, écrire, c'est aller à la rencontre de l'autre. Mais en réalité, on écrit parce que l'autre...
D'accord. Oh,
voilà, on écrit parce que l'autre.
C'est beau ça.
On écrit parce que l'autre.
Je retiens les phrases, moi.
Voilà, nous sommes dans le monde. Là, je suis là dans le monde.
Oui.
C'est un peu comme, je sais pas moi, l'histoire de Robinson Crusoe, la Robinsonade. Je suis seul dans le monde, mais cette solitude qui est dans laquelle je me présente dans le monde me fait avoir la nécessité de l'autre.
Tout à fait.
Que t'es l'autre. Et si je n'étais pas seul, et si quelque part ailleurs il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait me répondre,
tout à fait.
Un peu comme l'histoire adamique, Adam qui se retrouve dans le monde, il est tout seul, et puis à un moment donné, il a besoin d'une complémentarité.
Tout à fait.
Voilà. La complémentarité de l'écrivain, c'est l'autre. L'autre comme lecteur, l'autre comme existant, l'autre comme être là, en dehors de moi. Mais écrire, c'est finalement conditionner l'autre, c'est-à-dire écrire dans son âme. Autrement dit, lorsque vous lisez mon texte, vous prêtez votre âme à l'écrivain, vous devenez l'écrivain. En fait, vous prêtez votre âme à l'écrivain de manière à faire vivre les mots, Ces mots-là, désormais, qui sont en apparence morts, ternes, qui ne veulent rien dire, finissent par se transformer en émotion,
imagination,
en révélation,
crée, du coup, une émotion.
Et en conditionnement, peut-être, c'est la partie la plus... Écrire, c'est écrire dans l'âme, c'est écrire l'autre,
tout à fait.
Mais c'est aussi contribuer au développement personnel de l'autre, parce que écrire à la base, en fait, ce n'est qu'une quête de l'autre. C'est la raison pour laquelle la personne qui actualise le test, c'est finalement vous, l'écrivain.
Le
lecteur. L'écrivain écrit, mais l'écriture, c'est comme une bouteille lancée à la mer. Un message dans la bouteille lancée à la mer. Mais le message advient dans la plénitude de son existence, à la plénitude de la raison pour laquelle il est, lorsque il y a un lecteur qui prend le message, qui commence à le lire, et agit conformément au message.
Tout à fait.
Donc cette recherche de soi-même, en fait, dépend aussi de l'autre.
En réalité, l'écrivain dépend profondément. En fait, si vous voulez, l'écrivain, c'est une personnalité duale. En fait, l'écrivain, il appartient à la dimension gemellaire. C'est toujours déjà un jumeau. Il écrit lui, mais l'autre qu'il cherche, c'est sa deuxième part qui complète l'écriture, à savoir le lecteur.
Le lecteur,
celui-là qui vient. Finalement, le state devient total avec la rencontre de l'autre, du lecteur, la rencontre de l'autre. Sinon, c'est un livre qui reste dans un tiroir. Restant dans le tiroir, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de message. Le message advient lorsque le livre s'est ouvert et qu'une conscience s'est permise d'intégrer, de s'en approprier, d'intégrer une espèce d'intentionnalité, c'est-à-dire un sens, donner un sens, soit à l'œuvre, soit à sa vie, soit à la société, soit.
Tout à fait.
Les premières minutes déjà sont...
Non mais, en fait, je ne m'attendais pas à moins que ça, je vais donner, tu me donnes la permission, je vais me permettre de faire une petite divergence. C'est que, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés à une fête d'anniversaire. Et dans cette rencontre, il y a eu de la magie. C'est-à-dire que avant cette rencontre, notre écrivain aujourd'hui, je rappelle au nom de Brice Lévy-Koumba, pensais déjà à écrire quelque chose sur Echo. Il ne sait pas si c'était Echo, E-C-O, ou Echo, C-E-C-H-O, ou Echo, il ne savait pas. Ouais. Mais il avait déjà, en fait, et ça, ce sont ces mots que je reprends, il dira mieux que moi, quelque chose Echo qui l'attirait et qui ne savait pas pourquoi, qui ne savait pas dans quelle direction il devait aller. Mmh. On se rencontre à cet anniversaire, je me présente, je dis, je suis fondateur d'une association qui s'appelle Echo Attitude. Et que j'anime une émission sur la radio RCN qui s'appelle Echo d'Afrique. Ouais. Donc, en fait, il y a eu une double résonance. C'est-à-dire que, comme il le dit, il y a eu déjà ce début, et c'est là où je m'en vais lire un de ces passages qui me tient à cœur dans le livre Factice. Vous pouvez le prendre sur Amazon, où il dévoile comment l'écrivain, finalement, le rêve peut éventuellement être... Il intervient à trois niveaux. Il peut être un processus, dans le processus de création de l'œuvre littéraire. Il peut être au niveau de la vocation. Donc, beaucoup décident de devenir écrivain, mais suite à des injonctions émanant d'une expérience onirique. Et puis, finalement, l'écriture peut parfois aussi être carrément dans, lorsque l'écrivain décide enfin d'écrire, pendant la période de production du texte, et même bien avant, c'est-à-dire pendant la période de conception. Ces rêves mettent en scène le thème du livre donné ou encore du livre dicté. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je me rends compte que j'ai rencontré l'écrivain au début même peut-être de la production de quelque chose que lui-même n'en a pas encore conscience.
Donc tu as contribué.
Et j'ai contribué, en tout cas à ma petite échelle, à finalement, comme il l'a si bien dit, être... ce duel, c'est-à-dire ce duo, ou en tout cas cette personne qui vient rencontrer, ce lecteur qui vient rencontrer l'écrivain, et permettra peut-être à ce qu'il puisse me prêter finalement son âme pour que je puisse, moi, donner une imagination à ces mots, ou l'inverse, c'est-à-dire que finalement, c'est mon âme qui finalement va être pris par l'écrivain pour en saisir quelque chose et en découler. Donc, j'ai très hâte de lire, justement, ces prochaines écritures. Et ça, c'est pour moi mon propre témoignage que je viens faire sur cette antenne en disant que cette anecdote-là, pour moi, elle n'est pas anodine.
C'est de la magie.
Bah, en fait, je sais pas si j'anticipe dans le questionnement ou
là, bien sûr, dans le déroulé. Là, bien sûr. En fait, on discute en même temps.
Je suis en train d'entraîner, j'ai un modèle d'IA que je créais spécialement, justement...
Vous pouvez déjà nous en dire un peu plus sur ce côté IA, déjà comment c'est né, et surtout parce que moi je l'ai retrouvé un peu dans surtout le livre Factice, mais juste que nos auditeurs sachent exactement de quoi on parle quand on parle de l'IA en termes de littérature.
En termes de littérature, ok, je vais arriver. Donc, par rapport à la résonance d'Echo dont on faisait allusion tout à l'heure, en fait, j'étais en train d'entraîner justement mon modèle d'IA. Et à chaque fois que je mettais le titre d'un test éventuel, d'un roman, le mot Echo me venait souvent. Donc je mets Echo et après je mets le prompt ou le script de l'histoire, juste pour tester le modèle. Mais à chaque fois que je voulais tester le modèle, je revenais toujours, le titre qui me venait, c'était toujours Echo.
Echo.
Donc je mets Echo et puis je demande à... j'essaie de voir si justement le modèle est fonctionnel. Et puis à la soirée, lorsqu'il m'a parlé d'Echo, en fait, j'ai gardé le silence. J'ai dit, tiens, ces derniers temps... Et en fait, c'est ce qu'on appelle dans Factice la synchronicité. La synchronicité, c'est une sorte de, on va dire, soit on part par les rêves, c'est en fait, vous pensez à une chose et la chose se réalise. C'est comme une espèce de rendez-vous cosmique.
C'est ça.
En fait, les choses se mettent en concordance, en accordance, se superposent de telle sorte que la logique répond à vos préoccupations du moment. Donc, vous êtes préoccupé par une chose, et puis, comme l'univers s'organise de telle sorte que les prochaines personnes que vous allez rencontrer, d'où le terme de rendez-vous cosmique, sont en réalité les personnes qui répondent à vos questionnements de l'heure, vos questionnements actuels.
C'est ce qui est arrivé, du coup.
C'est ce qui est arrivé, donc la synchronicité. Donc, les éléments se sont, on va dire, mis en correspondance, de telle sorte que lorsqu'il m'a parlé de l'écho, je me suis dit, je suis actuellement un peu turlupiné par un thème, un mot qui s'appelle écho. Est-ce cette rencontre était la résonance avec ce mot écho? Je n'ai rien dit, j'ai gardé. Hein, et puis les choses sont venues, et puis je vous ai fait plus tard la confidence en disant, en réalité, certainement vous étiez sur mon chemin, parce qu'il y a que, pendant que j'étais en train d'entraîner mon modèle, ben, le titre qui me venait, c'était quelque chose de l'ordre de, l'ordre de l'école. Et puis tout à l'heure, lorsqu'on s'est vu, j'ai dit, ah ben tiens, Eko me rappelle quelque chose.
Oui, pas, il me l'a dit sur le chemin. Oui.
Eko me rappelle quelque chose, un livre de lecture, hein, qu'on utilisait à l'époque, je crois, au primaire,
oui.
Qui s'appelait Eko d'Afrique. Donc, c'est exactement le titre de votre émission, hein, Eko d'Afrique. Voilà, c'est exactement le titre de votre émission.
Synchronicité.
Donc, le modèle de hier, en fait, né, le livre Fartis, c'est un livre programme. En fait, c'est un livre, c'est un roman, mais en réalité, c'est un roman factice. Ce n'est que de la théorie littéraire. En fait, ce n'est que la théorie littéraire romancée.
Okay.
Tous les personnages, toute l'intrigue, en fait, ce n'est que le questionnement sur la littérature et sur l'écrivain, sur l'être au monde en tant qu'écrivain, sur le fait d'accepter sa vocation d'écrivain ou pas. Hein. Est-ce que si vous êtes appelé à l'écrire, à devenir écrivain, faut-il accepter ce cheminement ou pas ? Et quelles sont les raisons pour lesquelles, par exemple, vous résistez hein, au fait de devenir écrivain ? Les réponses sont plus en multiples et plurielles. Ça peut être un trauma dû à l'enfance, puisque les éléments de l'enfance ressurgissent dans notre devenir adulte.
Je l'ai retrouvé dans certains de
vos romans. Est-ce parce que c'est une expérience, c'est, on va dire, un mécanisme de défense? Voilà, on a adopté un mécanisme de défense.
Puisque justement, si vous me permettez hein, de dévoiler un peu certains de vos œuvres, il y avait justement cette partie où vous avez dû, en tout cas, le personnage a dû voler une pile électrique, enfin une pile, pour pouvoir troquer une encyclopédie et à un jeu.
Mmh.
Et finalement, il s'est pris justement quelques coups.
Ouais.
Et donc, cette douleur-là, est devenu en quelque sorte une définition de si je veux m'obtenir quelque chose pour lire ou écrire, et ben il me faudra toujours en payer le prix.
En payer le prix, parce que justement cette expérience de l'enfance dit que en fait écrire c'est dangereux. Puisque les premiers mots, enfin lorsqu'il troque l'encyclopédie contre des piles, il étudie les mots. En fait, il rentre en connaissance avec monde, il rentre en connaissance avec le langage, il rentre en connaissance avec, avec l'univers, et il a une définition, on va dire, il arrive, en fait, l'encyclopédie s'ouvre par une définition, enfin, un test magistral.
Tout à fait.
L'univers est structuré comme un langage.
C'est ça.
L'univers est structuré comme un langage. Donc, en fait, autrement dit, si on veut comprendre le monde, si on veut comprendre finalement, l'existence, il faut rentrer en rapport avec le langage.
Ouais.
Parce que l'univers, autrement dit, tout ce qui est structuré par le langage.
Mm-hmm.
Autrement dit, si on va plus haut, tout est langage,
tout est test.
Finalement, le test n'est pas forcément le livre.
Non.
Mm-hmm. Quand on dit qu'il faut lire, ce n'est pas forcément le livre. Le test, ça peut être vous, ça peut être la salle, ça peut être la nature.
Mm-hmm.
Tout devient langage. L'univers est structuré comme un langage, donc l'univers c'est le langage, donc finalement tout est test et finalement lorsqu'on existait, c'est toujours rentrer en rapport, en relation avec le langage pour y découvrir les éléments contenus, la matérialité contenue dans le langage, c'est-à-dire l'existence, le monde, enfin toute la problématique. Donc finalement lorsqu'il étudie l'encyclopédie, en même temps il étudie le dictionnaire, ça fait comme une boule dans son ventre.
C'est ça.
Une boule comme on va dire un volcan.
Un volcan qui se prépare à son éruption.
Qui se prépare à son éruption. Donc, en fait, c'est plus fort que lui. Donc, il est obligé, pour avoir ingurgité les mots, pour avoir étudié l'encyclopédie, donc pour avoir accédé à la connaissance,
en fait,
deux éléments vont de pair. Écrire et connaître vont de pair.
Oui.
En fait, il faut d'abord connaître.
La connaissance.
La connaissance. C'est pourquoi être écrivain, c'est être, en réalité, l'homme à la culture générale immense.
Oui.
Il ne connaît pas tout, mais il connaît un tout petit peu de tout.
Un tout petit peu de tout.
Pourquoi ? Parce que son rôle ou bien son geste consiste à se mettre à la place de l'autre et se mettre à la place de tout. Lorsque vous écrivez un roman, vous devez vous mettre à la place de l'objet ou du sujet que vous traitez.
Que vous écrivez, voilà.
Donc, s'il y a l'empathie, donc vous vous mettez à la place. Donc, à un moment donné, il y a eu éruption volcanique.
Mmh.
C'est-à-dire les mots ont finalement jailli.
Mmh.
Les mots jaillissent. Mais quand les mots jaillissent, ils arrivent sous la forme d'une lettre d'amour.
Wow.
Imaginez, vous êtes petit enfant, vous avez peut-être 10 ans, mais vous commencez à écrire, vous rentrez dans votre première expérience d'écriture avec une lettre d'amour. Cette lettre d'amour tombe dans les mains de votre maman qui elle ne comprend pas. Elle s'est dit, mais dis donc, j'envoie quelqu'un.
Mon fils à l'école, c'est pour aller étudier.
En scolarité. Et voilà qui va jouer les donjons. Donc ça prend un peu de coups. Hein. Et lorsqu'il prend l'encyclopédie, il reçoit aussi la terloge parce qu'il a dû voler des piles.
Voilà.
Il a dû voler des piles pour faire le troc. Hein, parce que celui qui avait l'encyclopédie, lui, il aimait jouer
aux jeux vidéo. Et il avait besoin donc d'une pile pour pouvoir mettre
dans son... Voilà, il a besoin d'une pile pour pouvoir mettre sur son...
Et ce petit enfant dont l'oncle avait une montre avec une pile, est parti voler la pile dans la montre pour donner à son ami pour qu'il puisse avoir l'encyclopédie. Et aller lire.
Donc la conclusion de tout ça, puisqu'il a reçu et terloge pour avoir...
Voler la pile
pour avoir l'encyclopédie. De l'autre, il a dû être taloche aussi parce qu'il a écrit...
Sa mère est tombée sur sa lettre d'amour.
La conclusion qui est arrivée, c'est... Écrire, c'est dangereux.
Voilà.
Ah, ok.
Écrire est dangereux.
Ok, et ben là, ça a du sens. Là, ça a du sens.
Parce que du coup,
quand tu m'as dit ça, j'ai pas compris.
Voilà.
Écrire, c'est dangereux.
Écrire est dangereux. Si bien que finalement, plus tard, lorsque, par rêve, ou bien par synchrosine, déjà par rêve, on l'appelle à l'écriture, en fait, il y a quand même un mécanisme de défense.
C'est ça.
Il s'interdit à définir et agir selon la scripturalité, parce que c'est dit que si je commence par écrire, certainement, voilà...
Je vais m'attirer des foudres.
Et en fait, ce n'est que, si vous voulez, de manière voilée, la problématique de la censure, en plein système qui interdit les libertés de langage ou d'écriture. Voilà. C'est quand vous allez effectivement plus loin dans le livre, la question est posée ouvertement, avec la question de l'autodafé, et puis le refus de la critique.
Ouais.
Un écrivain, voilà, le refus de la société qui refuse la critique, qui refuse de se faire critiquer, une société qui veut se développer avec ses responsables, mais qui, en fait, ne veulent pas la critique. Donc, à un moment donné, l'écrivain, dans un monde où on ne veut pas la critique, dans un monde totalitaire, qu'est-ce qu'il fait? Il adopte des mécanismes de défense, sinon, en réalité, il adopte la philosophie de l'eau.
Okay.
C'est-à-dire, il atteint ses objectifs par des contournements, des obstacles, par la sinuosité que lui présente les obstacles. Donc, comment il fait pour y arriver?
Oui.
En écrivant et en mettant dans les livres les messages, on va dire, plus ou moins codés, qui disent ce que l'on ne veut pas entendre, mais qu'en réalité, le monde doit entendre.
Voilà. Sur ça, nous allons marquer notre première pause pour écouter la musique que tu nous as choisie.
Ça marche.
Ah, Splatnum.
It's Kill P5.
Check it out, get down, get down, hey.
JJ, you're pretty JJ. JJ, you're pretty JJ. JJ, you're pretty JJ. JJ, you're pretty JJ, baby. JJ, you're pretty JJ. JJ, you're pretty JJ. JJ, you're pretty JJ.
I swear your love give me fever. All the time you come my dander shiver. Now you be the one, just believe it. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Cena with your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongu vusina. Kupe kila kitu, baby. Uchana kwa siku, baby. Tufanye mavitu, baby, mavitu. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa usiku, baby. Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. So take it long up a wine.
Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja.
No, 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 no.
Jaja, you put the jaja.
No, no.
Jaja, you put the jaja, baby. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja.
I hope you know say this sequence say where you got it for back in the make me the kwekwekwe baby kwekwekwe kanku pakewese nese nese zamenda ni narungu komredi kipepepe kipepepe oh la la la. Your body fine, now when you whine, you blow my mind.
Ooh, la, la,
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh, la, la,
kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la, la 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 la.
Kupe kila kitu, mchana kwa siku, tufanye mavitu.
baby ma vitu kupe kila kitu chana kwa siku tufanye ma vitu baby vitu baby sata kisla unapo wine
jaja yo puti jaja jaja yo puti jaja
no no no
jaja yo puti jaja
no no
jaja yo puti jaja baby jaja yo puti jaja Jaja, you're pretty jaja. Jaja, you're pretty jaja. Jaja, you're pretty jaja, baby.
Faiza, on the mix. L'écho d'Afrique sur RCM.
Aïe.
Quelle première partie de feu
intellectuel.
Laisse tomber, le niveau est juste dingue. En tout cas, si nos auditeurs et auditrices nous écoutent, j'espère que vous prenez aussi plaisir à écouter cette émission. Donc, nous sommes en compagnie, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de Brice Lévy-Koumba, un écrivain de la culture française et gabonaise, qui nous fait aujourd'hui savourer certaines de ses œuvres, mais je pense qu'on aura bientôt le plaisir de voir toutes ses œuvres à travers un événement qu'il organise bientôt. On dévoilera tout ça bientôt en fin d'émission. Et donc, restez avec nous. On était justement en train de parler de comment le rêve peut finalement être le début de l'écriture, ou en tout cas permettre à ce que l'écrivain puisse éclore une œuvre. Est-ce que tu veux continuer là-dessus ?
Là-dessus. En fait, le rêve, ce n'est que le roman ou bien l'écriture dans une manifestation autre. Okay. On va dire que c'est peut-être le commencement, le fondement ou la raison d'être de ce que nous voyons ici comme roman, comme livre.
C'est ça.
Voilà. En fait, c'est le fondement, c'est la dimension ontologique, pour ne pas dire métaphysique, de la chose qu'on appelle littérature ou encore roman.
D'accord.
Voilà. Parce qu'en fait, c'est quoi un roman ? Ce n'est qu'un récit, une histoire. C'est quoi un rêve ? Ce n'est qu'un roman, un récit.
Tout à fait.
Et quelle est la particularité entre le rêve et l'écriture ? C'est que, notamment dans le roman factice, c'est que, en fait, le rêve donne sa structure et même sa philosophie à l'œuvre. Alors, la particularité du rêve, c'est-à-dire que tout se vit
simultanément.
C'est-à-dire que vous pouvez vivre par exemple, 10 ans en une seconde ou en une minute, donc ce qu'on appelle la
notion de temps.
La notion de temps
n'est pas pareille.
Et en fait, ce n'est pas pareil. Donc là, le temps, il est un peu particulier. Mmh. Soit il est spiralaire, soit il n'est peut-être pas circulaire,
oui.
Peut-être pas linéaire, mais c'est un temps qui en fait, on va dire sur le point.
Okay.
Le point, c'est-à-dire la chose qui n'est pas encore éclose.
Mmh.
Elle est encore là, dans son œuf. Et à un moment donné, voilà, tous les événements sont là, qu'on va dire, là, en simultanéité.
Oui.
Le passé, le présent, le futur, en fait, c'est pas comment, la logique n'est pas forcément
binaire.
En fait, il faut pratiquer les associations, mettre le rêve en relation avec la vie pour pouvoir comprendre exactement c'est quoi le sens de la vie. Et l'autre dimension du rêve, c'est, on va dire, la condensation. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez vivre. En fait, plusieurs personnages au même moment, la condensation. C'est-à-dire, vous pouvez être bon, méchant, vous pouvez être X, Z, vous pouvez être moi ou toi, vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme, vous pouvez être tout. Vous pouvez être un monstre dans le rêve, mais tout ça au même moment.
C'est ça.
Hein? Et si, je ne sais pas si vous avez compris à quoi ça réfère, à quelle définition ça réfère, certains vous rappellent qu'un individu qui rassemble en lui, dans sa conscience, la totalité de tous les vécus, la totalité de tous les êtres, ou les personnages.
Tout à fait.
Ce n'est qu'en fait le mot d'être de l'écrivain.
Mm-hmm.
Hein? Ce n'est que le mot d'être de l'écrivain. Mm-hmm. Maintenant, le rêve, en fait, vient comme ce qu'on va appeler, on va donner un concept particulier, comme étant, en fait, l'appel du personnage, l'invitation du personnage. En fait, le personnage, c'est le test du livre factice, en fait, le personnage, vous ne le connaissez pas, mais il vous rend visite et il vous demande à l'eau matérialisée.
Okay.
Ah, en fait, c'est le personnage vous visite et vous demande de le matérialiser.
D'où le fait qu'on prête son âme voilà, finalement
l'invitation du personnage. Voilà, ça peut être soit la définition de ta vocation.
Mm-hmm.
Par exemple, dans le livre Fatis, on rappelle on rappelle à la personne qu'elle est écrivain. Enfin, c'est une personne qui apparaît devant, devant l'écrivain,
oui,
ou le candidat à l'écriture, et lui dit « je suis écrivain ». Mais disons « je suis écrivain », ce n'est pas un jeu autotélique, c'est un jeu qui vise l'altérité, c'est-à-dire la personne en face, en fait, la personne qui écoute le message.
C'est ça.
Hein, si je dis devant vous « je suis écrivain », ce n'est pas moi qui suis écrivain, mais en réalité, la personne qui est concernée par cette définition, c'est la personne qui est en face. Donc le rêve dévoile la vocation. Donc vous avez un rêve, un personnage apparaît et qui vous dit « je suis écrivain ». Et l'itération, c'est-à-dire la répétition, à un moment donné, vous fait dire « mais il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi à chaque fois ce rêve vient ?» Je suis écrivain. Donc appel à la vocation. Voilà, appel à la vocation. Mais aussi, le rêve intervient beaucoup lorsque vous écrivez. C'est comme un peu la dimension de la créativité. Dans la créativité, vous avez ce qu'on appelle la...
On le retrouve souvent chez les arts, c'est chez les artistes,
chez les artistes
ou chez les peintres.
Chez les peintres.
Ou effectivement.
Ce qu'on appelle l'incubation. L'incubation. C'est-à-dire que vous avez, comme tout à l'heure, vous avez emmagasiné des mots.
Oui.
Les mots intérieurs à l'intérieur de vous, en fait, sont en train de travailler. Et à un moment donné.
Ça explose.
Ça explose. Et pendant le rêve, c'est comme si vous étiez en incubation et le rêve vous oriente en disant bon, écoute. Le rêve vous oriente, le rêve vous oriente, ou bien vous donne le sujet, ou bien vous dicte le sujet.
Ouais.
Autrement dit, vous avez la dimension de l'audibilité qui se met en exergue, c'est-à-dire vous écoutez comme un récit audible qui raconte l'histoire que vous avez écrite, mais qu'on n'avait pas encore écrite. Donc quand vous vous réveillez, donc vous êtes orienté par votre rêve. C'est pourquoi la dimension onirique est non seulement... la définition de la littérature, mais aussi l'outil de l'écrivain. Voilà, on peut s'arrêter là.
Je pense qu'on en a beaucoup appris, parce que là, en tout cas, on a été chacun pris dans une dimension où là, c'est vrai qu'on le fait peut-être tous les jours, mais on n'arrive pas à mettre les mots là-dessus il le fait. Et c'est justement là qu'on reconnaît l'écrivain, là où on reconnaît la personne qui a un talent,
c'est
tout ça. Simplement.
C'est-à-dire
qu'aujourd'hui, on est tellement fiers d'avoir justement quelqu'un qui aujourd'hui, grâce à nos... Quand nous, on t'entend, on se dit, forcément, nos auditeurs, ce qu'ils attendent de nous, c'est d'avoir ce message d'espoir que nous avons toujours envie de véhiculer.
C'est ça.
Et quand on voit comment vous décrivez les choses, quelque part, peut-être derrière un volant, ou derrière une radio, il y a quelqu'un qui est en train de se dire « c'est vrai que des fois, quand je rêve de quelque chose, le truc se réalise, mais je n'ai jamais compris pourquoi.
Voilà. »
Ah bah donc du coup, voici donc la raison pour laquelle, ou encore, à chaque fois que je rêvais, j'ai peut-être repoussé ce que j'ai reçu comme message dans le rêve, il serait temps peut-être que j'écoute mon rêve et que j'aille faire ma guerre. Parce que ça peut être une vocation, ça peut être un talent que la personne ne se sent pas encore aujourd'hui prêt à pouvoir embrasser. Mais nous lançons justement à travers cette émission cet appel à tous ceux qui auraient justement des talents, des rêves qui les pousseraient justement à pouvoir embrasser une carrière, de se faire confiance et de oser. Parce que c'est ce message d'espoir-là que notre émission, elle porte. D'où le fait que quand vous venez et que vous matérialisez en tout cas ce message-là par en plus des œuvres qu'ils peuvent aller chercher sur Amazon pour pouvoir
partout.
S'inspirer de vos écritures, je trouve ça juste génial.
Il y a de la chance.
On a de la chance, effectivement.
On a de la chance. C'est pour ça qu'on voulait amener un écrivain, en fait.
Moi, j'ai même une confidence à faire, c'est que j'ai toujours rêvé d'être pilote.
Oui, vous voyez, ça tu m'avais
ça,
dit
je pense
ça.
Que
ça,
je l'ai toujours dit. On parle des rêves, donc forcément, je ramène mon rêve. Et ce rêve-là, j'ai essayé tant bien que mal de la vivre avec le peu que j'ai, parce que pour être pilote, on sait tous que c'est pas donné. Il faut avoir déjà, être très jeune, rentré dans une école de pilote, ce que je n'ai pas pu, parce que les moyens n'étaient pas là. Aujourd'hui, on peut se permettre, par exemple, d'aller faire des vols, de prendre des cours de pilote, ce que j'ai réussi à faire maintenant que je travaille et que j'ai un petit moyen. Mais ce n'est pas pareil que, on pilote des avions, de 4 places, que nous pouvons, chacun d'entre vous, peut aller dans un aéroclub et puis s'inscrire et puis avoir un moniteur qui vous accompagne. Et au bout d'un certain nombre d'heures de vol, vous pouvez passer votre, ce qu'on appelle le PPL. Donc, c'est le permis de pilote privé de ligne. Donc du coup, moi aujourd'hui j'accumule des heures pour pouvoir passer ce fameux permis, mais l'idée c'est de pouvoir finalement, à défaut d'être pilote de ligne et de pouvoir travailler dans une comme tu sais, Air France ou tout ce que vous voulez, au moins que je puisse prendre un week-end, ma famille ou deux, trois personnes qui sont des touristes et qui veulent voler d'un point A à un point B, je les prends et puis je fais en même temps, je réalise mon rêve, mais en même temps, ça me fait un complément de salaire. C'est un peu comme un taxi, un taximan qui prenait des gens d'un point A à un point B. Et ça, je trouve que vos œuvres, en fait, viennent un peu galvaniser cette envie en moi, puisque j'ai traversé des hauts et des bas, comme tout le monde dans la vie, et à des moments tu te dis, oui mais il faut quand même que tu reviennes à la réalité parce que ta situation ne te permet pas de, et donc finalement, à travers ces conseils qu'on retrouve dans vos œuvres, je trouve que c'est un message assez fort pour que chacun puisse croire en lui et dire qu'il n'y a rien à perdre,
et à aller se battre,
et il n'est jamais trop tard. Et donc je ne sais pas si Roméo, tu as un rêve à partager et que tu essayes de réaliser ou que tu refoules, que tu voudrais juste confié à nos auditeurs.
Non, j'ai pas de grands rêves comme toi.
Oh bah j'ai pas un grand rêve.
Je peux vous dire que quand ils m'en parlaient, on entendait bien qu'ils voulaient le faire et moi j'ai toujours souhaité qu'ils le fassent. Et le fait même qu'ils me disent qu'ils peuvent même conduire, je sais pas, votre famille, c'est très bien déjà. C'est un bon rêve réalisé. Ouais. Et je trouve que c'est bien et c'est un bon message. Parce que même, je sais pas, t'as parlé des jeunes qui veulent avoir un avenir. Même quelqu'un comme toi, t'es pas vieux. J'ai pas dit que t'es vieux. J'ai pas été vieux, mais même quelqu'un comme toi un peu plus âgé. Pour toujours réaliser son rêve.
Tout à fait.
Comme tu l'as dit, les livres le montrent bien.
Tout à fait. Et donc, finalement, ça nous amène justement à comment cette double culture gabonaise et française nourrit-elle votre plume, monsieur Lévy.
Ah, comment cette double culture nourrit-elle
Parce que comme vous avez dit au début de l'émission, vous venez du Gabon, mais Nancy, c'est votre village.
C'est notre village.
Donc j'imagine que vous vous inspirez un peu des deux villes quand même.
En fait, la littérature telle qu'elle se pratique, en matérialité, c'est un héritage justement de la dimension française, ou de l'identité française en nous, qui nous est venue d'une manière soit choisie ou bien d'une manière historique. Mais à la naissance, nous sommes, on va dire... comme un certain personnage né dans une marmite qui nous a directement plongé dans la culture française, notamment avec la lecture des auteurs français.
Oui.
Voilà, la lecture des auteurs français. Et la lecture des auteurs français nous font rêver en français.
Tout à fait.
Nous font rêver en français ou comme français.
Waouh.
Je suis d'accord. Parce qu'en tout cas, moi, quand je prends un peu, par exemple, des textes de Victor Hugo, même les fables de La Fontaine, ce sont des choses qui ont bercé mon enfance. Oui. Aujourd'hui, je peux te faire des récitations faciles de La Cigale et la Fourmi.
C'est des classiques.
Mais effectivement, ça nous donne un rêve ou bien un art oratoire comme un français, ou voilà, pour devenir français. Je vous rejoins complètement.
Et souvent, on arrive dans cette espèce d'écartement intérieur, puisque vous rencontrez l'autre à travers sa littérature, voilà. Vous êtes presque imbibé de l'autre, parce que lire, c'est comme un coton qui rentre dans un liquide.
C'est ça.
Dans un liquide, forcément, il en sort un imbibé. C'est-à-dire que nous ne sommes plus forcément nous-mêmes lorsque nous sommes nous plus l'autre. Mais là, tout à l'heure, on a dit, en réalité, la pratique de la littérature matérielle, c'est-à-dire sous forme de livre, sous forme de roman, c'est le côté, on va dire, français de l'histoire. Mais en réalité, le côté de l'autre, le côté idiosyncratique, c'est-à-dire le côté qui nous concerne personnellement, c'est toujours déjà l'art de la parole.
Tout à fait.
La littérature comme art de la parole. Parler pour raconter. Parler pour dire, pour révéler. Ou même s'éteindre, garder le silence pour aussi enseigner.
Tout à fait. Et là, on rentre un peu dans une particularité que je connais, si je mets un mot sur ceux qui incarnent ça.
Oui.
En Afrique, ça s'appelle les griots.
Oui, il y a les griots en Afrique de l'Ouest.
Oui.
Mais en réalité, tout Africain est habité par cette postulation, cette posture, la posture de l'oralité. On n'a peut-être plus l'art des contes, l'art des histoires, on n'a peut-être plus l'art des légendes, enfin, on a oublié peut-être nos légendes, mais en réalité, ils sont toujours là. Les proverbes, l'immersion proverbiale. En réalité, respecter, si vous parlez à un ancien, respecter l'ancien, c'est lui parler en proverbe. Tout à l'heure, on était en train de dire que vous n'utilisez pas trop de gros mots, hein, un langage soutenu. Mais en réalité, lorsqu'on rentre dans l'art de l'oralité, donc la sagesse profonde africaine, il n'y a que plus que vous montez en connaissance, le silence devient votre posture naturelle qui indique la sagesse, c'est-à-dire votre dimension de la connaissance.
Tout à fait.
Et lorsque le silence, à un moment donné, devient la posture de la personne connaissant, ou la personne connaissante, il n'y a que venir vers elle pour, pour soutirer la dimension de la connaissance, venir avec un langage terre-à-terre, c'est comme un peu, on va dire, l'humilité.
Manquer de respect.
Manquer de respect.
On va dire ça comme ça.
Voilà. Venir avec un langage déjà fermé, codé, énigmatique, vous n'avez pas dit proverbial, c'est déjà en fait faire honneur à son intelligence. Parce que vous dites que non, la personne est capable à les clés pour décoder ce langage obscur, énigmatique. Voilà. Ce langage qui contient certains secrets. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, informer, la littérature orale, c'est une littérature, en fait, qui s'est dit, elle se parle, mais en réalité, à l'intérieur, il y a un principe actif, on va dire un élément codé.
Tout à fait.
Dont la personne qui écoute a la clé.
Que le messager peut dévoiler, peut décoder.
Le messager, lui, il parle de manière voilée.
Ok, oui.
Ok.
Il va raconter une histoire.
C'est ça.
Il va raconter, par exemple, l'histoire. Mais un conte, en fait, c'est toute une cette histoire, c'est pour te former. C'est un enseignement. À l'intérieur, il y a les codes, soit un langage réservé. Je me rappelle une fois lorsque j'appartenais à une pièce de théâtre.
Oui.
Voilà, une pièce de théâtre. Et on a fait un spectacle, c'était un groupe théâtral d'un collège, le collège de Gamba, c'est une ville du Gabon. Et à un moment donné, dans la pièce, en fait, il fallait jouer ce qu'on appelle chez nous le ngombi, c'est-à-dire la sitar traditionnelle. Donc pendant qu'on était, à un moment donné, la personne qui jouait la sitar traditionnelle, pendant que la personne jouait à la sitar traditionnelle, les spectateurs, ceux qui ne comprenaient pas, faisaient le bruit. Et puis soudain, on a entendu dans la foule, « Taisez-vous, on nous parle. » Autrement dit, le langage musical, là, qui joue sa mélodie, à ce proche, à un moment donné, dans le factice, effectivement, fait intervenir le monsieur qui joue sa mélodie. Il n'y a que l'écrivain qui le voit, parce qu'en réalité, il n'y a que lui à qui est destiné. Enfin,
le
joueur, il joue sa musique, mais ce qui est dans la musique n'est vu que par l'écrivain.
Ouais.
Mais tout le monde, en fait, tout le monde regarde juste le spectacle.
C'est ça.
Ok.
Voilà. Mais dans le spectacle, en fait, il y a un autre spectacle. Il y a une scène au-delà de la scène.
Et
cette scène-là, en fait, se joue entre cela qui se dévoile et celui qui mérite, celui à qui est destiné le message. C'est bien que lorsqu'il demande à son voisinage, est-ce que vous voyez l'araignée qui est en face, j'en dis, chut, tais-toi. On écoute la musique. Alors, il s'éteint. Mais en réalité, il a vu quelque chose.
Ouais.
Effectivement, dans le langage qui s'est, même dans la musique qui se joue, il y a aussi une voix qui se parle. Et une histoire qui se raconte. Un récit, soit généalogique, ou un récit en rapport avec quelque chose de l'ordre pédagogique, ou de l'ordre éthique, ou de l'ordre politique. Tu ne devras pas faire ci, ou tu devras faire cela, etc., etc. Donc, l'oralité est la forme même de la littérature qui nous est propre, et la littérature que nous avons héritée, elle se matérialise, et la littérature qui nous vient dans le sang, elle se spiritualise.
Okay.
Elle se spiritualise.
Ça te fait penser à quoi ? La spiritualité. Notre première émission avec le Congo. On a eu la chance d'avoir effectivement... parmi nos invités, un sapeur, donc la sapologie, on a pu débattre de certains codes vestimentaires, et d'où le message en fait que tu portes nous fait écho à ce message de ce sapeur qui aussi à travers le vêtement, donc justement, pouvait aller jusqu'à transcender juste des messages d'ordre social ou politique, mais rentrer dans la spiritualité. C'est-à-dire qu'on s'habillait et derrière, il y avait justement une transcendance de l'état d'âme de la personne qui se dévoilait à travers sa façon de s'habiller. Et donc, je rejoins un peu finalement ton écriture en disant que même dans le code vestimentaire, il y a justement...
Parce qu'à la base, en fait, tout ce qui est art, le fait de se vêtir est artistique.
Oui.
Cela appartient à un grand domaine qu'on appelle art.
Oui.
Tout ce qui est art, c'est une façade pour...
Communiquer.
à quelque chose derrière l'écran.
Ouais.
C'est un écran de télévision, vous voyez quelque chose, vous voyez la, le film qui passe, mais derrière le film qui passe,
il y a
autre chose.
Autre chose.
Donc, on parle parfois de traverser l'écran, traverser le mur.
Oui, traverser. Voilà,
donc finalement, cette description de votre connaissance de la culture gabonaise, enfin, en tout cas, de votre propre personne à vous, puisque vous n'avez pas utilisé le mot d'être soit africain ou pas, mais connaître vraiment qui on est, et la culture, bien sûr, dans laquelle on a tous baigné, c'est-à-dire l'école, les études et tout. Comment est-ce que ça donne finalement comment on en arrive à ce résultat, à cette plume-là? À quel moment finalement le match s'est fait? Enfin, je veux dire, le mariage, on va dire, s'est fait.
La synchronicité.
La synchronicité s'est faite.
C'est ça.
Mais en réalité, ce n'est que le parcours de l'individu.
Ok.
Depuis l'enfance. En fait, ce qu'on a fait consciemment ou inconsciemment nous ont marqué, nous ont habité, nous ont formés pour se manifester maintenant sous la forme, sous ma manifestation présente.
D'accord.
Autrement dit, depuis que j'étais jeune, on était sur ce cheminement-là.
Tout à fait.
Qui a matérialisé ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Autrement dit, en fait, on va dire le vieux, la lutte, est l'enfant de l'enfance.
Et finalement, on va marquer une deuxième pause et on reviendra tout à l'heure pour conclure. Mais avant juste cette pause-là, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous dire quels sont les projets qui innovent éventuellement pour toi un nouveau monde gabonais ou un nouveau monde finalement qui te correspond?
Notamment à travers tes projets d'IA.
Bon, en fait, ce qui peut me correspondre, c'est le fait que j'ai créé une théorie littéraire qui s'appelle la boutistique.
D'accord.
Voilà, c'est la boutistique qui est finalement née autonome V13, c'est-à-dire le modèle d'IA.
Ok.
Sous dibobé.com.
Donc, d'accord.
Dibobé, en fait, c'est une araignée dans la légende, on va dire, gabonaise, dans la cosmogonie.
Gabonaise.
Dans la légende de la cosmogonie.
D'accord.
C'est dans l'explication de l'univers, l'explication de la raison d'être de choses. Il y a un personnage qu'on appelle Dibobé. Et ce personnage, c'est une araignée qui est justement la responsabilité, on va dire, d'écrire les destins.
D'accord.
Elle tisse les destins.
Ok.
Voilà, c'est la responsabilité de tisser les destins. Donc, c'est elle qui, lorsqu'elle arrive, en fait, vient valider, voilà, qui vient valider soit une posture. Enfin, vous allez voir, en fait, je ne l'ai pas dit, en fait, quand vous lisez le roman factice, il y a la redondance, l'apparition de manière itérative de l'araignée.
Ouais.
Même celui qui parle, l'écrivain qui parle, enfin, qui écrit en parlant, voilà, il définit son écriture un peu comme une toile d'araignée.
Tout à fait.
Voilà. Parce qu'en fait, derrière ça, c'est le Gabonais qui parle.
C'est ça.
En fait, c'est la cosmogonie gabonaise qui est en train de parler.
Okay.
On ne le dit pas, parce qu'en réalité, la grande science, c'est la science qui dit montrer mais pas dire.
Okay.
Sur ces belles paroles, nous allons marquer une deuxième pause et on revient tout de suite pour conclure et annoncer votre événement.
Appelle-moi NZ Banks. C'est pas le modèle, c'est ça le réel, c'est dans le modèle que tu sais pas ça. Wariman doun so shekbe, shekbe. Easy bang. Dans la Minecraft, tu dois tirer parce que dans les gaz, y'a pas maman et papa. Il veut faire jaillir là le long sens. Seulement que ceux qui aiment demander n'aiment pas partager. C'est comme un tata Rosie. Ton acte bata donc allons-y. Dans ce qui sait, on te parle, tu réponds. Je vais tourner ta tête en fausse espoir. Mais j'ai la Wanda, NZ, dis-nous comment tu fais ça. C'est depuis le fun de la maquette. J'ai la notion bouvée, je me l'ai. On n'a pas pris ton nom, bye. Mais on te dit qu'on va t'appeler. On a rêvé, est-ce que c'est bien comme ça? C'est ton âme qui fait les yeux doux au coiffe. Est-ce que c'est bien comme ça? Tu quelqu'un ça m'a mis devant l'église. Est-ce que c'est bien comme ça? Le répétu, la serpentine. Est-ce que c'est bien comme ça? Et ouais. Quand tu veux parler ça, tu m'avais dit que je ne pouvais pas. Non, pas même faut voir. On disait ça ou c'est pas ça. John Dash, allô mané. Au contraire pour relancer ton gré. Ou sans famille mais tu vas Wanda. Poste Et j'ai la Wanda. NZ dis-nous comment tu fais ça. C'est depuis le vent de la maquette. Et j'ai la notion bouvée je voulais. On n'a pas pris ton nom et tu Wanda. Mais on te dit qu'on va t'appeler. On a rêvé, est-ce que c'est bien.
viens du 6ème A. Ainsi, tout dit, mon ami Kael. Ma vitesse, au coup Benji. Me donne Boutio. Darrel, c'est ça. Ma copa.
RCN, l'écho d'Afrique.
L'écho d'Afrique sur la radio.
Quelle émission, quel invité. Quel invité.
Brice Lévy Kumba qui nous a déroulé. Il nous a complètement déroulé. Moi, j'étais comme ça. J'étais palpité.
C'est clair.
Comme il l'a dit, l'écrivain ne sait pas tout. Mais il sait un peu de tout.
Ah oui, ça.
Et moi, il m'a eu.
Et il a dit dans, justement, avec de très belles paroles, que moi, je me rappelle qu'il y a plein de gens qui sont dans la science, qui aiment bien sortir des livres, mais ils savent pas comment faire, alors qu'ils ont des choses à véhiculer. Mmh. Et ça voudrait dire qu'on n'est pas obligé de faire des séries littéraires avant de pouvoir être capable de rendre une œuvre vivante, quoi. Parce que il y en a Saint-Exupéry, qui a fait plein de voyages dans le monde, ne vient pas du monde littéraire, il a plutôt fait tout ce qui était voyage, aéronautique, etc.
Communication.
Voilà, donc c'est vraiment tout ça qu'on découvre avec toi, et ça fait plaisir qu'on puisse encore une fois élever notre esprit dans une autre dimension.
C'est toujours un plaisir.
Tu voulais poser une question, allez-y.
Parce qu'on parlait du Gabon, et en parlant par message, Brice, il m'avait envoyé une petite vidéo, voilà, qui introduisait un peu son projet d'IA. Et moi, j'avais des mots, m'avaient un peu titillé. Donc, j'ai été chercher. J'ai dit Boga et le Bouiti. Et ça dit que ça ouvre les portes de l'invisible. Alors, encore une de vos phrases très littéraires. Moi, je suis là pour apprendre. Donc, quel rôle spirituel joue justement ces deux éléments-là dans votre quête de domaine personnel, d'autonomie personnelle, pardon?
En fait, le Bouiti, c'est la culture gabonaise.
C'est ça, simplement.
Simplement, le Bouiti, c'est la culture gabonaise. En fait, c'est un rite initiatique. Pratiqué presque dans l'ensemble du Gabon.
D'accord.
Voilà. Pour pratiquer ce rite, là, en fait, les Indiens utilisent un champignon. Nous, on utilise une plante, une racine qu'on appelle l'iboga.
Ok.
Donc, l'iboga, lorsque vous l'ingurgitez pendant l'initiation, en fait, la structure mentale, votre structure mentale, en fait, coïncide avec la structure mentale de votre communauté, de votre groupe. En fait, vous devenez un homme de la communauté. Donc, vous voyagez. Vous êtes un homme individu, un individu, vous appartenez vous êtes un individu quelconque. Lorsque vous mangez l'iboga, en fait, vous parcourez un voyage que parcourent en fait toutes les personnes qui s'initient à l'iboga, qui mangent la plante d'iboga. Donc vous voyagez dans l'au-delà, donc l'iboga ouvre la porte, en réalité ouvre les yeux. Ouvrant les yeux, désormais vous ne voyez plus que le physique, vous voyez l'invisible aussi, avec le monde invisible qui se matérialise à vous. Vous ne faisiez pas que voir le monde invisible, mais en réalité, vous êtes dans le film du monde invisible. Vous devenez acteur du monde invisible.
Wow.
Vous êtes projeté dans ce monde invisible.
À travers la télévision, comme il a dit.
Voilà. Vous êtes projeté dans ce monde invisible.
En tout cas, on fait un coucou à tous les Gabonais. Depuis la radio RCN, c'est une dinguerie. Moi, j'aimerais bien faire cette expérience-là.
Je veux voir à travers l'invisible aussi. En plus, je crois que c'est peut-être l'une des premières fois qu'on a un Gabonais aussi.
Oui, je pense aussi. Oui, tout voilà. À fait.
Donc une émission des premières fois.
Quand on a un invité, il faut savoir qu'après on va dans son pays.
Voilà, dès que vous avez un voyage prévu dans la soute, dans la cabine, vous le mettez dedans, on sera là.
Ça marche.
Comme Coco l'a dit, du coup, notre émission elle porte aussi sur le fait de porter un message. C'est vraiment, on n'est pas là que pour exposer. C'est important aussi d'exposer un peu les réussites africaines, parce que vous êtes une réussite africaine, faut le dire, un grand écrivain. Mais aussi véhiculer un message pour nos auditeurs, les plus jeunes comme les plus âgés. Et donc là, on va peut-être s'adresser plus aux écrivains. Exactement. Ouais. Ou aux futurs écrivains, ou aux personnes qui voudraient écrire. Comme Coco l'a dit, Saint-Exupéry, il ne voulait pas écrire de base, mais pourtant, au bout de plusieurs voyages, il a pu écrire après de très très grandes œuvres. Un conseil justement pour les auditeurs qui aspirent à l'écriture, ou à la résistance culturelle, comme vous l'avez dit. Un petit conseil pour eux, voilà. Qu'est-ce que vous leur conseillez peut-être? Est-ce que vous pensez que c'est compliqué de passer à l'écriture, de passer le cap? Et ensuite, quel conseil vous donneriez justement à quelqu'un qui veut passer le cap de l'écriture?
Voilà. En fait, si on considère la dimension consciente et inconsciente, tout homme est un écrivain qui s'ignore.
Donc je suis écrivain.
Tout homme est un écrivain qui s'ignore. Parce que c'est quoi être écrivain? C'est juste raconter des histoires.
Ouais.
Or, nous sommes tous pleins d'histoires. Il suffit de le matérialiser. À l'époque, on parlait de don. Il a le don d'écriture, mais deuxièmement, on parle de talent d'écriture. C'est-à-dire qu'on peut apprendre l'écriture. On peut apprendre l'art d'écrire. Mais comment apprendre l'art d'écrire? On l'a déjà dit en réalité ici. C'est en relation avec la connaissance. Et la relation avec les mots. Plus vous fréquentez les mots, plus vous élevez, enfin, vous êtes curieux.
Tout à fait.
La curiosité fait que vous créez une boule en vous, mais qui cherche à sortir. Cette sortie donne l'écriture. Quel conseil donner? Légué, légué, être légué.
Légué, légué, être légué.
Légué, légué, être légué. Lire, lire et lire. Encore lire.
En tout cas.
Et finalement, on finira par écrire.
Ben, j'espère que nos auditeurs ont bien capté ce message et qu'ils vont se mettre là, maintenant, tout de suite, à aller chercher sur Internet vos œuvres, vos informations pour que, justement, ils soient tous présents à notre prochain événement qu'on nous rappelons a lieu le 9 mai.
Normalement, le 9 mai.
Vous avez un mot juste peut-être à dire à nos auditeurs sur cet événement pour qu'ils viennent nombreux. Ça vous exposez quoi exactement comme...
Mais j'appelle, j'invite ceux qui nous écoutent à venir nombreux le 9 mai à la salle des fêtes de Vendeuvre où sera organisée une exposition de mes livres.
Voilà.
J'exposerai mes livres.
Voilà.
Ceux qui voudront les avoir pourront les acheter. Sinon, il y a la plateforme Amazon.
Oui.
Voilà. Soit Amazon, soit en présentiel.
Soit en présentiel.
Et je vous assure que si vous venez en présentiel et que vous avez la chance de discuter avec ces grands écrivains, vous aurez encore plus de chance. Mais déjà, n'hésitez pas à venir le 9 mai, salle des fêtes, Vélodrome. On sera là.
Il est dédicacé.
Si vous voulez une dédicace aussi,
C'est à vous de voir.
Si vous voulez une dédicace.
En tout cas, ça nous fera plaisir de vous accueillir. Et nous avions été accompagnés par Jean-Luc à la partie technique. Nous le remercions du fond du cœur pour tout le sacrifice qu'il fait à chaque fois pour que nos émissions, même si des fois on a les invités à l'improviste et qu'on arrive justement à organiser tout et à l'intérieur et à l'extérieur pour vous accueillir. Nous sommes aujourd'hui très contents et très fiers de vous avoir eu, cher aîné. Donc, c'est Brice Lévy-Koumba, un écrivain hors pair qui, justement, n'est plus à présenter de par ses écritures, ses œuvres. Allez voir sur Amazon.
Sur Amazon. Vous serez très, et soyez très, très là surpris. Le 9 mai.
Soyez là le 9 mai pour le soutenir et l'accompagner dans ses œuvres. Je sais pas, je te laisse le mot de fin.
Ben écoute, écrire. Non, c'est lire et ensuite écrire. lire et ensuite écrire.
Ce sera notre dernier mot justement pour cette émission. Allez, passez une très bonne fin de journée.
Et à bientôt sur l'Écho d'Afrique.